Oui, c'est Karine. Alors, je viens d'assister en direct sur France 2 à la fameuse bulle médiatique ou médiatico-politique, comme dit Jean-François Kahn, Arlette Chabot faisant la bise à Jean-François Copé. Je veux bien qu'elles se connaissent, mais là, franchement, c'est une faute professionnelle. Montrer ainsi ses affinités, non, c'est pas du journalisme, ça. Non. Bonne soirée.
Ouais, salut Daniel, c'est Luc de Voiron. Hier, France Inter nous apprenait qu'on avait mis en prison pour un mois un gars qui avait eu l'audace d'uriner sur un distributeur de billets. Aujourd'hui, France Inter nous apprend que les prisons françaises sont surpeuplées. Moi, j'en conclus que mettre un gars en prison parce qu'il a uriné sur un distributeur, non seulement c'est immoral, mais en plus c'est con. Voilà.
Alors, Georges Bush, légaliste d'AGGN. Moi, je zappe sur plusieurs radios. Seul Bernard Guetta sur France Inter ce matin a une chronique de révolte. Mais personne ne s'est révolté contre cette horreur, n'est-ce pas? Ça aurait été Massu, Osares ou autre. Eh bien, Bush, c'est super tout ça, ça légalise. C'est une honte. Nous sommes des démocraties vachardes, n'est-ce pas, qui préférons nous interroger sur la tenue de candidats socialistes. Cette pauvre France va à volo. Il y a 20 ans, j'ai 25 ans aujourd'hui, et j'en serais descendu dans la rue comme on descendait en 65, en 68 contre le Vietnam. Ce George Bush est un minus. À qui puis-je adresser mon coup de gueule sinon à toi? Salut Daniel, je suis pas de ton bord, mais je t'aime.
Bonjour vous. Bon, moi je voudrais écouter dans le poste aujourd'hui, car je voudrais vous tenir informé du Café Repère du 20e arrondissement de Paris. Son 26e rendez-vous est samedi prochain, le 21 octobre, toujours au lieu dit 6 rue Sorbier, dans le 20e arrondissement à 16h. Notre fonctionnement, toujours le même, laissez fleurir les thèmes sur le moment. Allez, Yannick de Paris, ciao.
Au nom de l'État français, et en accord avec le président Chirac, j'ai décidé d'attribuer la médaille du mérite agricole au président Ahmadinejad. La cérémonie aura lieu lors du prochain salon de l'agriculture. Travail, famille, patrie et colifichet.
Des Africains s'échouent et meurent à Ceuta et Melilla. Nous, nous écoutons l'histoire bien au chaud. Merci Daniel, c'est bien de donner à entendre la parole des Africains à tous ceux d'ici qui ne peuvent pas savoir à quoi ressemble notre monde vu d'Afrique. Souffrir, mourir pour un Eldorado. Eldorado, monde doré, le monde de l'or. Car c'est bien l'image, la seule image de nous qui est véhiculée là-bas. Avant, l'Eldorado c'était de l'autre côté. Amérique du Sud, Afrique, mais depuis qu'on a pillé, utilisé, transformé leurs ressources pour asseoir notre développement industriel et assurer notre puissance économique, l'Eldorado est passé au nord. Mais le nord a ses grilles fermées. Je suis épouse d'Africain. J'ai donc été vécue moi-même, comme un Eldorado par toute une communauté. Un jour, j'ai compris que les yeux de mes amis africains étaient un miroir. Le reflet que j'y ai vu ne me ressemblait pas. Dans leurs yeux, miroir était tous ces Occidentaux si puissants. Depuis, je ne décolère pas contre tous ceux qui coupablement ou innocemment entretiennent le mythe. Je cite en vrac, conquérants et pères colonisateurs, fils de colons et expats bien protégés dans leurs grosses maisons et grosses voitures, les médias du monde qui n'en finissent pas de répandre les merveilles de l'Occident, les innocents touristes dans leur bulle d'oubli, sans oublier le système généralisé de corruption que n'ont pas inventé les Africains et dont le but est d'entretenir des niveaux de dépendance. Si au lieu de barricader l'Occident, on arrêtait de promouvoir comme si c'était une merveille notre maladie névrotique du mieux-être et bien-avoir, tout consommable, demain peut-être moins de migrants viendraient perdre espoir à Ceuta, Melilla ou Tijuana. Je parierais volontiers que dans un temps plus court que nous n'imaginons, la vie deviendra meilleure de l'autre côté de la Méditerranée. Lorsque les Africains auront restauré la confiance dans leur propre culture, leur propre identité, et qu'ils inventeront leur propre développement, pas la photocopie d'une autre. Et dans cette fiction-là, tous les Occidentaux rêveront à nouveau de l'Eldorado d'en face. Mais alors, il n'y aura plus de kérosène pour les avions. Ciao, merci, c'était Catherine Duvard, et merci là-bas si j'y suis.
Merci à Catherine Duvard qui a été vécue comme un Eldorado et qui résume l'émission d'hier et qui d'une certaine façon présente l'émission d'aujourd'hui. On est toujours à Bamako avec Antoine Chao autour de la commémoration de la nuit du 28 au 29 septembre à Ceuta et Melilla, les deux enclaves espagnoles au nord du Maroc, où de 5 à 20 personnes, on ne sait pas exactement, 5 à 20 Africains subsahariens, comme l'on dit, ont été tués par balles, par des balles tirées par les forces de l'ordre espagnoles contre ces migrants. Et vous vous souvenez, l'émotion qui a gagné quand même, alors qui nous a gagné ici, mais qui a gagné tout le monde africain, tout le monde de ces migrants qui rêvent, poussés qu'ils sont par la misère de notre Eldorado. Mais c'est bien plus vaste que ça, c'est-à-dire ce qui s'est passé là a eu des échos dans tout le sud, comme on dit, on veut dire la partie pauvre de la planète. Et qui sait s'il n'y a pas un lien entre ce genre de drame et ce qui se passe dans nos quartiers, les émeutes de l'an passé, qui peut assurer qu'il n'y a aucun lien entre les deux? Les jeunes Français noirs de ces quartiers ont la télé, ont le net et voient ces images. Si vous vous mettez à leur place, que pensent-ils et quelle est leur rage, quel est leur sentiment? Qui peut assurer qu'il n'y a aucun lien entre tout cela? Eh bien, ceux qui voudraient qu'il n'y ait aucun lien sont ceux qui érigent ces murs, ces frontières, ces barbelés. Mais on sait très bien que c'est impossible. Pas seulement parce que les hommes et les femmes finissent par passer quand même, mais c'est parce que la mémoire passe quand même, et elle va passer dans cette émission, en tout cas jusqu'à 16h sur France Inter. Après les messages que voici à nouveau, d'autres messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, j'y suis au 01 56 40 37 37.
Oui, salut Daniel, salut toute l'équipe de la basse, j'y suis. Donc ceci est un message et un appel en même temps, un rassemblement. C'est Mathilde de la librairie Jonas à Paris dans le 13e arrondissement. Hier, un lieu culturel, un cinéma de quartier a été muré par les forces de l'ordre et c'est très très triste et il faut vraiment réagir vite. Donc samedi, il y a une manifestation à 17h avec peinture et musique pour peindre les parpaings, un petit peu de gaieté dans le quartier, et à 20h une projection. Souriez, vous êtes murés. Merci, à bientôt.
Bonjour à tous, bonjour Daniel Mermet et son équipe. Je viens d'écouter ton émission sur Bamako, le forum à Bamako. Je suis absolument retournée et effrayée. Je suis algérienne, je n'ai pas possible. J'arrive pas à croire que des Algériens tirent comme ça sur des Africains. C'est pas possible. Moi, je me sens pas du tout solidaire de ce gouvernement. C'est pas normal, c'est pas possible. Les révolutionnaires algériens, les résistants ont fait cette révolution pour des idéaux, pour de la justice, pour... c'est pas possible. Je suis vraiment émue et troublée. Je ne comprends pas. Vraiment. Ici, on se bat contre Sarkozy. Et puis voilà que nous, on fait la même chose. On tire sur des Africains, nos frères. Mais c'est pas possible. Et où est passé le temps du panafricanisme? C'était tellement bien dans les années 70. On était si bien. On parlait d'Afrique. C'était nos frères, des Africains. Et maintenant, ils sont devenus nos ennemis. C'est pas possible. Mais c'est pas vrai. Mon grand-père, mon père, ils doivent se retourner sur leur tombe. Ils se sont pas battus pour rien contre le colonialisme, pour des indépendances.
Salut Daniel, c'est Simon de Bordeaux. Voilà, moi j'appelle par rapport à la restauration. On parle beaucoup des 35 heures en ce moment dans la restauration. Moi, je suis cuisinier et là j'ai attaqué récemment mon employeur au prud'homme. Et je peux vous dire que il faut le faire parce que ce sont des gens qui sont pas de manière générale, mais parfois assez malhonnêtes dans ce secteur-là, comme dans le bâtiment ou d'autres secteurs. Donc voilà, juste pour vous dire qu'il faut pas vous laisser faire si vous êtes dans le même cas que moi. Il faut pas hésiter à attaquer les employeurs au prud'homme. Moi, je pense que je vais avoir gain de cause. Pas citer l'entreprise parce que, ben, pour l'instant, c'est en plein traitement, si on peut dire. Mais voilà, je voulais vous dire que c'était aussi une manière de résister que d'envoyer ses employés au prud'homme quand on s'est fait avoir, quand on n'a pas été déclaré aux URSSAF, quand on a été volé sur les heures qu'on effectue, etc., etc. Salut.
Je peux témoigner, je sais, je veux, je peux témoigner pour le moment que j'ai vu mourir dans le désert lorsque nous quittions du Niger pour Tamaracet. C'était un Guinéen. Et au Maroc, je peux témoigner, il y a beaucoup de gars qui ont été enterrés par les gardes dans la forêt du Maroc. Je peux le témoigner.
Et maintenant, qu'entendons-nous? Au lieu de se sentir interpellé par ce qui s'est passé il y a un an.
Voici Ceuta, enclave espagnole en territoire marocain. À droite le Maroc, à gauche l'Espagne. Entre les deux, 8 km de barbelés, de caméras, de miradors, la forteresse européenne est bien gardée.
On en a marre, je crois que vraiment, tous ces manigances qui sont en train de faire, je crois qu'on va se révolter.
C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut s'énerver.
Les ministres de l'intérieur des pays riches d'Europe décident de verrouiller davantage ses frontières et sont prêts à récompenser les dirigeants africains qui acceptent de surveiller leurs propres ressortissants.
Nous partons en Europe parce que nous n'avons pas la place dans la société. Si nous avons la place dans la société, pourquoi aller en Europe?
Ça y est, tout le monde est parti, ouais. Allô. Direction au palais de congrès, centre de conférence international.
Toi, tu y vas alors?
Je vais.
D'accord. Dans le prochain camion?
Non, moi je vais sur ma moto.
Tu m'emmènes?
Avec plaisir.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas que j'y suis, à Bamako, avec Antoine Chao, le forum des migrants.
Flight number 2, arriving from...
Voilà, je me retrouve au Mali sans savoir, je dirais pas pourquoi, mais c'est parce que je suis obligée d'être là. Je suis partie de mon pays, dont je tais le nom, en quête d'un avenir meilleur. Malheureusement, j'ai été confrontée aux difficultés de la route, à la barrière, la célèbre barrière de Ceuta. J'ai pas pu passer. J'ai été réduite à la misère, pire même. Je me suis retrouvée avec un enfant, une grossesse indésirée parce que j'avais faim. J'avais très faim. J'avais pas de choix. Je voulais poursuivre des études. J'ai essayé vainement de chercher un visa. Cette fois, j'ai pas pu l'obtenir. Alors je me suis dit, je vais tenter une chance. C'est insupportable. Je manquais pourtant pas d'argent. J'en avais suffisamment pour pouvoir me payer un billet d'avion. Je suis secrétaire de direction de formation, j'ai un BTS. Et je voulais aller faire des études en horticulture. L'école n'existant pas dans mon pays, j'ai trouvé une adresse. J'ai même payé la caution pour partir. J'ai passé 11 mois en forêt. Amélia, on voyait l'Eldorado de l'autre côté, l'Espagne.
Ok, il y a la petite qui se réveille un peu. Elle dort paisiblement, là.
Elle ignore tout ce qui se passe. Dieu merci qu'elle soit en vie. Elle n'a que 35 jours. Guylaine, c'est le nom de ma tante qui a payé mes études, qui aujourd'hui est décédée aussi. J'ai pas connu mes parents, moi. Elle a tout misé, ma tante, pour moi. J'ai fait le désert de Magna, j'ai fait le désert de Tizawati.
Donc tu as été refoulé par les autorités marocaines dans le désert?
Oui.
Ils savaient que tu étais enceinte?
Bien entendu. C'est pas leur problème, quoi. Il faut quitter le territoire, c'est tout. C'est tout ce qui les intéresse. Et j'ai accouché à Gabriel Touré.
Ici à Bamako?
Oui.
Et qu'est-ce que tu lui souhaites à Guylaine?
Je sais pas. Et sincèrement, je sais pas.
Et toi, tu vas retenter ta chance?
Oui. Et cette fois avec mon enfant. Je préfère mourir que de vivre dans la honte. Je peux plus rentrer. C'est un fardeau de rentrer les mains vides, sans atteindre ses objectifs. On a ruiné tout le monde en partant.
Entre 2000 et 2005, il y aurait eu autour de 4000 victimes parmi ces migrants africains venus d'Afrique noire et qui tentent de venir en Europe à travers le Maghreb, qui essayent de rejoindre ces enclaves, par exemple espagnoles du Maroc, ou qui passent par la Libye vers l'Italie, vers l'île de Lampedusa, ou par Malte. Et aujourd'hui, ces temps derniers, très nombreux par les Canaries. Depuis le début de l'année 2006, 27 000 clandestins, je le disais hier, ont débarqué à bord des Cayucos aux Canaries. En septembre, on a enregistré 7 600 entrées irrégulières. Alors, qui sont ces jeunes, parce que ce sont des jeunes, bien sûr, l'épreuve est telle qu'il faut avoir une très grande forme physique pour tenter cette aventure terrible. Il faut le plus souvent ne pas savoir en quoi elle consiste, d'ailleurs. C'est les témoignages qu'a recueilli Antoine Chao qui indique ça. Mais qui sont ces, un peu plus précisément, ces jeunes qui veulent venir absolument en Europe? La plupart sont diplômés, ont des diplômes divers et variés, des diplômes professionnels ou des diplômes universitaires. Et c'est d'abord un drame pour l'Afrique, puisque c'est un exode des compétences. Et c'est une matière grise qui s'en va, des compétences, une Et l'immigration choisie, en fait, elle l'est déjà. Et si elle était systématisée comme le prévoit notre ministre de l'Intérieur, ce serait encore accroître la pauvreté de ces pays d'Afrique noire. Et il faut savoir que le différentiel économique entre le Maroc et l'Espagne, si on ne prend que le Maroc, est de 1 à 15. Hein, c'est les frontières entre le Maroc et l'Espagne sont parmi les plus inégalitaires. Alors, je vous dis pas les différentiels entre le Mali, l'Espagne et l'Europe en général. Voilà pourquoi nous sommes là, parce que après tout, ça nous regarde. Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous regardent plus que ça, qui nous regardent dans les yeux. Est-ce que nous voulons vraiment une Europe dans laquelle nous nous enfermons comme dans une prison? Est-ce que nous voulons être ces citoyens, ces Européens, ces Français, ce que vous voulez, qui sont dans une situation de craindre et de redouter un autre qui rôde autour de notre forteresse et qui vient s'écraser contre nos barbelés et tous ces dispositifs de sécurité que nous chargeons d'autres pays d'entretenir et de constituer. Est-ce que nous voulons être cette Europe qui repliée sur ses richesses, indifférente au reste du monde, et qui fait comme si ces richesses n'avaient été produites que par elles-mêmes? Notre prospérité, c'est pas seulement notre talent, notre génie, notre travail qui fait que nous l'avons obtenu, bien évidemment. Faudrait pas avoir la mémoire trop courte quand même et oublier ce que fut la traite négrière, ce que furent le pillage des ressources naturelles et des ressources humaines dans les nombreuses régions du monde, dont cette Afrique noire. Évidemment, une dette, ça ne s'oublie pas, ces liens ne s'oublient pas, ces liens dans tous les sens d'ailleurs, parce que, évidemment, que nos amis africains, on va le voir là encore aujourd'hui, au Mali, à Bamako, à l'occasion de ce forum, se réfèrent bien évidemment à la culture occidentale, à la culture universelle, et très souvent, bien souvent, à la culture des Lumières. Alors il y a ceux qui veulent des liens, qui veulent que la mémoire il s'agit pas de vouloir la mémoire, il n'y a pas de devoir de mémoire, il y a une évidence de la mémoire, et puis il y a ceux qui veulent faire comme si tout ça n'existait pas, et comme si un petit ministre pouvait aller dans cette énorme Afrique, choisir selon son bon goût, selon ses critères à lui, ceux qui mériteraient d'être parmi nous, de profiter un peu de cet Eldorado. On a parlé, on a écouté hier Aminata Traoré, mais elle n'est pas seule, Aminata Traoré. Hein. Il y a des messages qui m'ont donné tout le temps la parole à Aminata Traoré, elle n'est pas la seule. Et c'est bien vrai, la preuve, voilà Samba Ibrahim Tembeli, qui est un jeune militant de CAD Mali. CAD Mali, c'est la coalition des alternatives africaines pour la dette et le développement, enfin contre la dette et pour le développement, et qui répond à une question qui a été soulevée hier, à laquelle cette auditrice d'origine algérienne faisait allusion, et qui fait suite à, je vous l'avoue, un message que je n'ai pas diffusé, un message d'un auditeur africain, et qui était outré par ce que les Maghrébins ont fait à ces Africains, à ces migrants africains, et qui avait des propos pleins de rage et de colère envers les Maghrébins. Et ça, c'est un résultat terrible, atroce, que cette division des pauvres. C'est-à-dire que l'un des effets de cette fermeture de l'Europe et de ce refoulement de ces migrants a pour effet de dresser des pauvres les uns contre les autres, ce qui est parfaitement consternant.
CAD, c'est la coalition des alternatives africaines d'aide et développement qui travaille, qui développe tout un plaidoyer sur tout ce qui est question de la dette qui constitue un moyen de domination des pays du Sud par les pays du Nord, et les accords de partenariat entre les pays du Nord aussi et les pays du Sud, nous travaillons sur toutes ces questions, et les questions, les droits humains au niveau de nos pays.
Toi, tu travailles beaucoup avec une autre association de migrants qui s'appelle l'Association des Expulsés, c'est ça?
Oui, l'Association des Expulsés du Mali, oui, c'est ça.
On réfléchit à ce problème de la migration et de la difficulté que rencontre donc la majorité des migrants qui sont sénégalais et maliens à traverser donc un corridor sanitaire, non, qui serait mis en place.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans pas mal de nos pays, la stratégie développée par la colonisation au niveau de nos pays, ça a été de créer des types de populations. Par exemple, les gens, les chefs de village ou les responsables, essayer de choisir une minorité pour pouvoir les aider, les accompagner dans la répression de la grande majorité. C'est peut-être même une stratégie néocoloniale qui continue au niveau du continent africain, où on essaie quand même de créer aujourd'hui, approfondir cette barrière qui est entre les pays d'Afrique subsaharienne et le Maghreb, qui est de se servir de ces racismes qui s'est d'une certaine manière développé entre la population blanche africaine et la population noire africaine. Ce racisme qui a été surmonté pendant les indépendances par pas mal de nos dirigeants. Donc on est en train de se servir de ces racismes-là pour essayer de créer une situation de désarroi sur le continent, en disant que voilà, les pays comme le Mali, le Sénégal, les populations sont de la seconde zone, les pays du Maghreb, Algérie, et on est en train d'impliquer la Mauritanie dedans, Maroc, sont de la première zone, mais de façon générale, nous sommes tous réprimés, que ce soit Marocains, Algériens, Maliens, Africains, on ne veut pas de nous en réalité. Mais il faut créer quand même cette situation sur le continent pour essayer de créer des fausses solutions pour résoudre la question. Et ça peut aboutir à des choses qu'on ne peut pas maîtriser. C'est une aubaine pour ces pays-là qui continuent à renforcer aussi bien leurs dispositifs sécuritaires en disant nous allons essayer d'empêcher les émigrés de passer, mais ces mêmes dispositifs sécuritaires sont utilisés contre leur propre population. Et nous pensons que malgré que nous sommes tous des Africains, il y a aujourd'hui, les autorités sont en train de se servir de cette situation-là pour essayer d'endormir la conscience de leur population en nous présentant les populations noires d'Afrique, en les présentant comme le problème au niveau de ces pays, alors qu'en réalité, les vrais problèmes sont qu'aujourd'hui, de plus en plus, nos frontières sont davantage ouvertes, il n'y a plus d'industrie, il n'y a plus de travail, il n'y a plus rien, les jeunes sont sans espoir. Donc, ce qui fait que voilà, la situation ne peut que se présenter ainsi.
Amo Dima, c'est nakla ay diplôme de Dima ça. Et alors tu as le diplôme de la Nini ils sont là qui dit au Kanga. Et alors tu as le diplôme de Dima.
Mais moi aya cheni la Allah kun taqona ni.
Et ça c'est que Willy songo ko nokka do fla da Allah taala.
Alors, destruction de l'agriculture paysanne, destruction de la fonction publique, privatisation des entreprises, destruction du lien économique et social par les politiques imposées par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, sans parler de la question de la dette. Il faut l'énergie, l'optimisme et le talent de nombre d'Africains pour tenir encore ces pays, leur pays, à bout de bras, essayant de les tourner vers l'avenir. Il faut savoir que ces migrants, pour ceux qui réussissent et qui réussissent à passer à travers les mailles du filet, il faut savoir qu'ils seront utiles à bien des choses, ces migrants. Ils sont d'abord très utile pour les passeurs, et ça rapporte pas mal pour les passeurs, et tout le trafic du passage, parce que tout au long de ces trajets, il y a des tas de petits commerces, il y a des tas de petits formes de parasitage, de piratage de toutes sortes. Et puis, dans les pays où ils finiront éventuellement par arriver, eh bien, ils constitueront une main-d'œuvre idéale, c'est-à-dire taillable et corvéable à merci. Au moindre écart, le patron se fera un devoir de les renvoyer au premier centre de rétention du coin. Et puis aussi, ces migrants, ces immigrés renverront de l'argent au pays, comme le font par exemple depuis bien longtemps les Maliens qui vivent et travaillent en France. Et les fonds qu'ils envoient dans leur Mali, dans leur Afrique, ben ça constitue une ressource importante pour leur famille, pour leur village, pour le pays tout entier. Et c'est pour leurs dirigeants, souvent corrompus, comme ils le disent eux-mêmes, un moyen d'atténuer la souffrance sociale. Donc, ils sont très très utiles, ces migrants, lorsqu'ils réussissent. Lorsqu'ils échouent, eh ben tout le drame, ils le portent sur eux-mêmes. Et il y a ce que disait cette jeune fille qu'on a entendue, cette jeune femme qu'on a entendue au début, Valérie, avec ce témoignage terrible. Il y a la honte de rentrer chez soi. Parfois, on n'a même pas les moyens de rentrer chez soi, au village d'où l'on vient. Et aussi la honte, parce que souvent, le village, la famille s'est cotisé et l'on n'ose pas revenir. Alors, on est à Bamako, échoué, et on attend un godot africain.
Non, ça fait pratiquement un an et demi aujourd'hui que je tente, n'est-ce pas, de traverser pour, n'est-ce pas, me rendre en Europe. Je suis arrivé, n'est-ce pas, ce tard, mais ça n'a pas marché. Et j'ai vécu vraiment des moments très très difficiles, très 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 difficiles. Donc je me sens vraiment très fatigué. Mais qu'est-ce qu'il faut? On est contraint de le faire. Pourquoi? Parce que quand tu diriges, par exemple, à l'ambassade, j'ai tenté déjà ça près de 4 fois et j'ai pas pu, n'est-ce pas, obtenir le visa. Donc j'étais obligé d'en lancer, n'est-ce pas, par la voie routière pour pouvoir, n'est-ce pas, arriver là-bas en France. Et je les ai vus, n'est-ce pas, crever devant mes yeux, devant moi, parce qu'ils étaient malades et tout. Donc il n'y a pas vraiment des conditions adéquates pour pouvoir, n'est-ce pas, les venir en aide. Et j'ai pas encore vu, n'est-ce pas, un président, n'est-ce pas, africain s'élever et intervenir, n'est-ce pas, par rapport à ce sujet. Mais je comprends toujours pas jusqu'à nos jours pourquoi est-ce qu'ils n'interviennent pas. Mais j'espère quand même qu'un jour, les choses pourront changer et que, n'est-ce pas, nos colonisateurs, parce que j'interpelle toujours, parce que les colonisateurs, c'est les Français. Nous sommes, n'est-ce pas, des ressortissants des pays francophones et quand je parle de colonisateurs, je parle toujours des Français et de Chirac en personne. Et bien lui, je l'interpelle. Pourquoi? Parce que depuis qu'il est monté au pouvoir, tout ce qu'il a eu à faire avec, n'est-ce pas, nos dirigeants, regardez un peu la Côte d'Ivoire. Il y a des problèmes qui se passent en Côte d'Ivoire. Mais que va devenir la Côte d'Ivoire? Qui va devenir la Côte d'Ivoire? La France qui a colonisé. La France qui dit que c'est eux, n'est-ce pas, qui sont toujours là présents, qui seront toujours là présents à nos côtés pour nous intervenir. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Regardez un peu le Darfour, la guerre du Soudan. C'est pareil, en 2 ans, 300 000 morts. 300 000 morts. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça? Qu'est-ce qu'on pourrait donc dire de ça? 300 000 morts. En 2 ans. Mais l'Afrique souffre. L'Afrique souffre. Alors j'aimerais, n'est-ce pas, dire aux Occidentaux que vraiment, et puis il faudrait qu'ils essaient de cesser ça parce qu'on a compris déjà le jeu et que nous les jeunes, d'ici peu de temps, nous allons nous révolter. Et si vraiment nous nous révoltons déjà, je crois que là, on ne pourrait pas s'arrêter. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on traite le nègre, le noir. Comme je ne sais pas ce qu'on pense du noir, je ne sais pas ce qu'on pense du noir, mais il faudrait qu'ils comprennent un jour que nous allons nous relever. Nous allons, n'est-ce pas, réclamer nos droits. Alors nos droits, ce dont on a besoin, ici en Afrique, que le chef d'État, le dirigeant africain, puisse, n'est-ce pas, avec l'argent qui puge, avec nos ressources qui pillent, n'est-ce pas, pour s'entendre avec des Occidentaux et manger de cet argent, qui prennent cet argent, ils nous créent des emplois pour qu'on puisse, n'est-ce pas, être occupé, enfin, de ne plus sortir. S'il y avait du boulot, je ne vois pas, il y a un Africain sorti pour aller, n'est-ce pas, s'exiler, il y a pour dire qu'il va se battre, non. J'ai de la famille en Europe. Mais si je vous explique un peu dans quelles conditions aussi vivent en Europe, c'est pas comme vous le pensez, c'est pas le F de roi de comme on le dit. Alors on peut être que tout ça cesse. Ben, on n'est pas de la mondialisation. Pas de la situation des personnes. Mais pourquoi donc c'est moins l'argent? Donc c'est l'argent, qui est la mondialisation, ou bien c'est les personnes qui sont la mondialisation. On en a marre de ça. On en a marre, je crois que vraiment,
ensemble, j'interpelle toute la jeunesse africaine de pouvoir, n'est-ce pas, se mobiliser pour qu'ensemble on puisse combattre cela. Et même s'il faut qu'on se révolte contre toutes ces manigances qui sont que de faire, ben vraiment, je manque le mot, en fait. Je manque vraiment le mot. C'est la révolution, c'est ça, la révolution africaine, la jeunesse africaine. Et c'est ça, justement. Et je crois que là, la révolte sera très, très grave. Alors, vraiment, s'ils peuvent avoir une prise de conscience, qu'ils les aient maintenant. Merci.
Journalistes assassinés parce que des présidents assassins, des généraux aux commandes, des populations opprimées, les aides aux pays détournés, des populations affamées, les fonds du pays dilapidés, les droits de l'homme ignorés. On en a marre, l'Afrique en a marre. On en a marre, le peuple en a marre. Après l'abolition de l'esclavage, ils ont créé la colonisation. Lorsqu'on a trouvé la solution, ils ont créé la coopération. Pour contenir cette situation, ils ont créé la mondialisation. Et sans expliquer la mondialisation, c'est Babylon qui nous exploite. On en a marre, l'Afrique en a marre, marre. On en a marre, le peuple en a marre, marre. L'Afrique en a marre,
c'est machination.
Mon peuple en a marre,
c'est manipulation.
L'Afrique en a marre,
c'est toutes ces exploitations.
Mon peuple en a marre,
c'est toute cette oppression.
L'Afrique en a marre.
C'est pas parce qu'il fait chaud qu'il faut s'énerver.
Pas le temps de respirer, nouvelle salve d'un monsieur au fond de la salle.
Le vote de la loi anti-immigration est considéré comme une provocation, voire même une offense envers notre peuple.
Et monsieur, en tant que représentant de la France, je n'accepterai pas que le contribuable français soit traité comme vous venez de le traiter. Vous pouvez très bien dire que vous êtes en désaccord avec la politique que je mène, mais vous n'avez pas à insulter le gouvernement démocratique qui représente un pays et qui porte une politique.
Ça n'a pas entièrement convaincu ces propos qui n'étaient pas vraiment, ça n'a échappé à personne ou presque personne, qui n'était évidemment pas destiné aux Maliens, mais à une clientèle électorale française. Alors, ça n'a pas changé quoi que ce soit pour les malheurs et aussi le courage des Maliens qui savent très bien qu'ils ne devront leur libération de cette misère qu'à eux-mêmes. Et pourtant, les pistes ne manquent pas. On a parlé de co-développement, on a caricaturé le co-développement, mais pourquoi pas un vrai co-développement qui viserait à orienter vers des investissements productifs les fonds qui sont transférés par les immigrés, et puis l'aide au développement, il y en a quand même, et bien, il y a ces fonds qui sont considérables. Alors, toutes ces pistes, ces hypothèses existent. On a réfléchi depuis longtemps à tout ça. Il y a une culture quand même de tout cela, aussi bien du côté africain, du côté malien en l'occurrence, que du côté français. L'immigration régulière, avec des allers-retours possibles, au lieu d'enfermer, une fois qu'on est passé la frontière, on ne rentre pas. Donc, une circulation plus facile, on avait vu ça, vous vous souvenez, entre Mayotte et les Comores. Et puis peut-être aussi une hausse des revenus des travailleurs qualifiés dans leur pays d'origine, de façon à ce qu'ils restent dans leur pays, qui n'aient pas forcément envie de se sauver pour aller vers des horizons meilleurs. Il y a aussi, il ne faut pas non plus négliger, une curiosité des Africains. Ils ont un appétit de monde comme tout le monde. Il ne faut pas non plus négliger cet aspect de leur curiosité. curiosité et de leur envie de découvrir le vaste monde. Mais enfin, voilà, on est en train de parler sur un certain ton, avec certains types d'idées qui ne sont pas du tout, mais là absolument pas, celles de notre ministre de l'Intérieur, ni celles de Schengen. On revient avec, à Samba Ibrahim Timbelli de CAD Mali.
Au Mali, les autorités ont eu quand même, on peut dire qu'ils ont eu un peu peur parce qu'ils n'ont pas signé directement comme les autorités sénégalaises, mais les autorités n'ont rien fait pour manifester de façon politique ou bien de façon claire leur opposition aujourd'hui à cette politique migratoire. Donc on peut dire qu'il y a une certaine complicité qui existe aujourd'hui entre les autorités maliennes et toutes ces politiques migratoires qui oppressent aujourd'hui les jeunes africains. Sarkozy s'est pensé dans un pays conquis. Donc, la fois dernière, lorsqu'il est passé, il a été accueilli de l'aéroport jusqu'à l'intérieur de Bamako par les masses populaires. Donc, cette fois-ci, il avait envisagé la même chose. Mais vu les manifestations contre son arrivée, donc il a été obligé d'écouter son voyage au niveau du Mali. Et il a été même obligé de sortir par des chemins assez tordus pour pouvoir aller visiter. Donc, il n'a pas effectivement fait sa mission au Mali comme il souhaitait. À part qu'il a pu donner quelques matériels de répression aux autorités maliennes pour davantage faire de la répression.
Ah, donc, le ministre de l'Intérieur, quand il vient comme ça en visite à l'étranger, il vient avec des cadeaux et ce sont des matraques, des gaz lacrymogènes, des casques de répression, c'est ça?
C'est présenté comme un partenariat fécond, assez intéressant, parce que ça n'a pas été caché, ça a été dit à la télé, à la radio, et ça a été apprécié par les autorités de la place, parce que toujours les autorités sachent aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire, et ils ont toujours peur des mouvements, parce que les peuples révoltés, ils ont peur un jour que ces peuples ne s'élèvent et que se mobilisent contre eux. Donc il faut réellement renforcer les dispositifs sécuritaires pour faire beaucoup plus de répression. Donc dans la mesure où ils sont dans la complicité avec les autorités françaises, donc de ce fait, ils veulent réellement renforcer tous ces dispositifs sécuritaires-là.
Donc il fait des cadeaux en conséquence.
Il fait des cadeaux en conséquence parce que sinon je ne vois pas quel intérêt nos autorités ont à soutenir la politique française de l'immigration. Ce n'est pas pour avoir des cadeaux visibles et invisibles.
Ça c'est un animateur de la radio, mais il est en train de faire une publicité sur les bazins, sur les tissus bazins. Voilà, parce que après le mois de carême, c'est la fête qui vient. Alors les gens n'ont qu'à prendre disposition pour payer des bazins, pour faire des grands boubous avec. Il est en train de faire une publicité d'abord, après elle va commencer. On dit nuit des bazins.
Alors, la publicité à la radio, sur une radio du Mali, pour le bazin. Pour le bazin, qui est un, on va découvrir un peu, parce que le bazin, c'est un tissu. Et c'est un tissu fait de coton. Et le Mali est le premier producteur africain de coton. Ah, ça devrait être une promesse de richesse. Eh ben non. Malgré ça, cette position de producteur de coton, le coton rapporte très peu aux producteurs et au pays. Pourquoi? Tout simplement parce que la concurrence au niveau des États-Unis, au niveau de l'Union européenne, eh bien, c'est que l'Afrique et le Mali n'arrivent pas à tenir le coup. Parce que les États-Unis, l'Union européenne octroient des subventions à leurs producteurs dans ce domaine. Et c'est un effet de la mondialisation. Alors, comment ça marche le bazin?
C'est le bazin?
Ouais, c'est l'ambassin.
Et pourquoi il faut le taper comme ça? C'est pour l'amidon?
Ouais.
Et il faut le taper combien d'heures le...
1500.
Donc il y a un tronc d'arbre qui est encastré dans le sol, qui sert d'enclume, quoi. Et avec les grosses masses qui sont comme des troncs d'arbres sculptés, qui doivent peser
Bam.
C'est lourd. Donc là, il va falloir faire 1500 coups de marteau ici.
Ouais, 1500.
Sur ce tissu-là.
Ouais.
Fait 2 mètres carrés, quoi, à peine, ouais. Donc c'est parti pour 1500 coups de marteau, là, sur ce tissu orange. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Petit quartier du bord du fleuve.
Ah ouais.
Mais ici, c'est, les femmes, elles font la teinture alors.
Comme les femmes de teinture aussi. Est-ce qu'on te dit, on va descendre ici.
Ouais.
Comme c'est pas loin.
D'accord.
Ouais.
On est au bord de l'eau. Bonjour. Ça va? Donc là, il y a des grosses marmites.
Comment?
Qui chauffent, c'est des,
ouais, c'est
réchauds.
Ils vont mélanger de teinture pour mélanger de teinture avec amidon aussi. Voilà le blanc là, ça c'est l'amidon.
Ça c'est l'amidon dans des petits sacs en, ouais, plastique, là c'est de l'amidon.
Ouais, ouais.
Et ils font chauffer ça sur des réchauds à charbon.
Voilà.
Donc il y a une vingtaine de femmes qui sont en train de travailler là.
Il y a une vingtaine de femmes qui travaillent avec deux patronnes ou bien trois patronnes. Oui.
Alors là, les femmes, elles sont dans l'eau, hein, jusqu'aux genoux à peu près, et elles sont en train de tremper les tissus, donc de différentes couleurs. Il y a des tissus bleus, des tissus rouges, ocre, des tissus noirs et l'eau. Alors l'eau du fleuve, elle est toute noirâtre, quoi. Hein. C'est un mélange de toutes les couleurs et des sacs en plastique et des détritus qui jonchent là, le bord du fleuve Niger. Donc là, il y a différentes teintures, et en fait, avec ces teintures,
ouais,
ils
font
des motifs sur le tissu.
Ouais,
sur le
masin. Par exemple, celle-là, là, peut-être il y a trois couleurs ou bien quatre comme ça.
C'est quoi dans la bassine là? C'est une teinture?
Fuchsia.
Fuchsia.
Alors, on change de teinture, on met de teinture encore, on te lave. Le modèle là, on s'appelle bougie.
Ah oui, donc là, il y a un bout qui est attaché.
Il y a d'autres couleurs encore. Quand on met du rouge là, et ça donne un autre motif encore.
Et combien de passages de couleurs on fait sur un tissu?
Trois fois.
Le tissu, il arrive tout blanc comme ça, mais il est fait où ce tissu?
Allemagne.
Il vient d'Allemagne.
Ah, le tissu, il vient d'Allemagne. Donc vous faites que la teinture?
Un peu faux, j'ai.
Vous connaissez de teinture seulement. Aucun autre travail que de teinture.
Donc ça, c'est la couleur, ça, on a dit fuchsia.
Oui.
Et c'est chaud, il faut que ce soit chaud.
Ah d'accord.
Et c'est pas mauvais pour la santé, les teintures?
Ah ouais, gazi bamban. Non.
Ils savent qu'il y a une maladie, ça donne des maladies, mais quand ils ont fini leur travail, la nuit, ils prennent du lait.
Ah, du lait? Du lait de vache.
Ouais,
là, il y a les tissus qui arrivent tout pliés d'Allemagne. Ils traînent un peu par terre, mais...
Ah.
Donc là, on est au bord de l'eau, mais il n'y a plus de caïmans et de crocodiles.
Il n'y a plus de caïmans et Bamako est toujours Bamako. L'ancien nom existe toujours. Bamako, c'est les crocodiles. On n'a plus de crocodiles. Mais le nom avant qu'on donnait le crocodile, là, on ne peut pas effacer maintenant. Ça devient symbolique quand un fils qui naît aujourd'hui, il y a des photos de caïmans là, il y a trois caïmans là. On met des photos sur votre acte de naissance. Donc ça veut dire que Bamako, même s'il n'y a pas de crocodile ici, mais toujours on tient et Bamako.
Mais donc les femmes, peut-être la mère et les grands-mères, quand elles faisaient la teinture, elles se faisaient peut-être des fois mordre par les crocodiles?
Quand même, actuellement, là, c'est plus de 35 ans maintenant, il n'y a pas de crocodile ici. Mais l'hippopotame, là, je l'ai vu ici.
L'hippopotame?
Oui.
Tu l'as vu ici?
Je l'ai vu ici. Mais ils sont partis, je ne sais pas, il est mort ou bien quoi. En tout cas, ils sont disparus.
Un hippopotame sauvage au bord de l'eau.
Au bord de l'eau, oui.
L'explorateur sur un mât perché du haut de son navire contemplait les rivages d'Afrique à la recherche de trésors cachés et de richesses précieuses pour sa nation. Une fois la caverne d'Afrique Baba trouvée, on décida d'envoyer le brave missionnaire, souvent de bonne foi, la Bible à la main, pour prêcher la bonne parole de ses pères hiérarchiques. Une fois les agneaux rassemblés dans la bergerie, surgit le colonisateur pour imposer à sa manière la civilisation et l'ordre établi par sa société. C'est ainsi que se mit en place le partage du gâteau africain par les nations dites civilisées. Oh oui! La dissection par les puissances coloniales qui meurtrit par l'abolition de l'esclavage ne se soucieront guère de l'appartenance rivale des autochtones désemparés. Une fois la pompe Afrique installée, huilée, on avancera comme par hasard, ici ou là, une fausse idée d'indépendance, de pays en voie de développement, qui ne fera que masquer la cruelle réalité d'une Afrique tous les jours plus dépendante. C'est ainsi que la vieille Afrique, sous un arbre accroupi, contemple le spectacle désolé d'une décolonisation ratée, avec la pérennité de despotes subtilement installés et protégés par une main invisible avec laquelle ils pillent les richesses locales et les aides pour le développement.
Forum pour un autre Mali, forum pour les migrants qui s'est tenu à Bamako du 29 septembre au 7 octobre. On va finir provisoirement cette émission aujourd'hui. On va continuer à nouveau lundi, toujours au Mali, toujours à Bamako. Mais on va finir une conclusion pour aujourd'hui avec Taoufik Ben Abdallah, qui est économiste, qui est chercheur et qui, je crois, établit très clairement les enjeux.
Il est dommage pour cette Europe qui s'enferme, qui se construit en une sorte de prison où ses citoyens sont mis dans une situation de devoir craindre l'autre, de devoir garder sa richesse pour soi, de penser que cette richesse, elle ne vient de nulle part, elle n'a pas d'histoire. Il n'y a que l'Europe qui a produit cette richesse pour elle-même, par elle-même, depuis tout temps, eh bien c'est faux, c'est faux. Il est quand même aisé de constater qu'il y a 50 ans, des millions d'Européens étaient en Afrique, il n'y a pas longtemps, il y a 50 ans. Deuxièmement, que l'Europe elle-même, dans les années 60 et 70, se servait d'une main-d'œuvre facile, servile, africaine, qui allait peupler les usines et les champs européens, et que tout d'un coup, on dit, non, effaçons tout ça, toute cette mémoire n'existe pas, aujourd'hui, nous nous centrons sur nous-mêmes, nous vous connaissons pas, on n'a aucune dette vis-à-vis de vous, c'est facile tout cela, c'est facile. Sauf que l'histoire, c'est l'histoire, la morale, c'est la morale. Une dette est une dette. L'humanité, elle fonctionne comme ça. Elle a une mémoire collective. Et cette mémoire collective, il ne suffit pas d'être riche pour l'effacer. Et il ne suffit pas de s'enfermer dans des prisons pour l'évacuer.
Merci à Taoufik Ben Abdallah. Merci à Aminata Traoré, Valérie et Patrick Samba. Merci à Awa, merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission pendant 24 heures, ou bien vous pouvez écouter aussi là-bas.org où cette émission sera écoutable dans les heures qui viennent, et ainsi que beaucoup d'émissions de Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Fabrice Desmaz et Julien Dumont. C'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission, assisté de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et le courriel de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. We'll be right back.